Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Et nous repartons sur la campagne présidentielle ne s'arrête jamais. Je me tourne vers Marie-Caroline et je te demande un nombre entre 1 et 60.
59.
C'est feignant de demandeur d'emploi.
Ah. Oh, excellent thème.
Est-ce qu'en France, on manque d'emploi ou les soi-disant chercheurs d'emploi se complaisent à ne pas en chercher, à profiter des aides sociales ? Le Premier ministre Gabriel Attal a récemment, dans les Vosges, fait un petit discours à ce sujet, dont voici les points clés. 1. Le modèle actuel n'incite pas au travail. 2. Le gouvernement est pour une France du travail. Et 3. Au final, les classes moyennes en pâtissent le plus, car ils n'ont pas beaucoup de pouvoir d'achat, tout en n'ayant pas le confort d'un chercheur d'emploi. Donc, ton directeur de campagne dit, voilà 2-3 mots qui nous interpellent et avec lesquels on pourrait parler. Donc, aujourd'hui, on a deux classes moyennes et un super riche qui soutient le discours d'Attal, et on a des précaires, des bobos qui t'attendent un peu au coin du tournant sur ce sujet. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce discours d'Attal dans les Vosges ?
Moi, je trouve ça scandaleux, parce qu'évidemment, il y a un mépris très fort de la part de la majorité, mais bon, on a l'habitude. Je pense que ce dont la France a besoin, c'est d'une mère qui les prend en son sein. Moi, je suis tout à fait apte à avoir cette attitude-là. Je pense que la première chose déjà qui pose problème, c'est de pointer du doigt les personnes qui aujourd'hui sont dans la précarité, les petites gens, les personnes qui sont parfois dans des endroits extrêmement reculés, où la réponse du gouvernement va être la taxe carbone. Voilà. Les gens aujourd'hui, pour travailler, ils ont besoin de leur voiture.
Oui.
Ils ne peuvent pas, puisqu'on leur coupe. On leur coupe comme ça. Ne rigole pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, on leur coupe. On leur coupe tout. On leur coupe les services publics, il n'y a plus rien. Donc aujourd'hui, la France des périphéries, la France des campagnes, la France des petites gens ne peut pas travailler. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui seraient en mesure de travailler, qui auraient envie de travailler et qui ne le peuvent pas. Et qu'est-ce qu'on fait ? On appelle France Travail. France Travail. Mais une honte d'appeler ça France Travail. Il n'y a rien de français là-dedans. Il n'y a aucune des valeurs qui est portée correctement par cette institution. Moi, je trouve ça scandaleux et je pense qu'il faut aller au plus près des territoires pour leur apporter des solutions concrètes. Il y a un manque de formation très clair. Aujourd'hui, on met quoi ? On met des sous dans les universités de gauche, la Sorbonne, les wokistes. On met pas de sous dans des formations manuelles. Les enfants, on les force à aller faire quoi ? Aller faire un bac général, alors que peut-être que certains, dès le collège, voudraient avoir des formations qui sont plus... des travaux plus concrets. Voilà, c'est ça concrètement aujourd'hui
c'est
la réponse
gouvernement. C'est une proposition intelligible, clairement argumentée. Tu gagnes un retraité, une classe moyenne. Et les applaudissements du public. C'est à toi, Fabien. Dis-moi un chiffre entre 1 et 50 et 60.
12.
Panthéonisé.
Oh, ouf. Qui ?
On va voir.
Ah.
Alors, Emmanuel Macron...
Ah, on le panthéonise ?
Non, non.
Non, non.
Il n'y a pas une étape avant ?
Emmanuel Macron organise un deuxième transfert au Panthéon. Celui de... Tu peux répondre si tu sais. Non, tu sais pas.
Là, en ce moment-là.
Ouais, non, le dernier qu'il a fait.
Manoukian.
Exactement. Issak ouais. Manoukian, résistant d'origine arménienne.
Et sa femme.
Et sa femme. Et c'est une longue cérémonie retransmise en direct avec force commentaire, les chaînes d'information, notamment LCI, où on propose aux candidats de venir. Donc tu es sur LCI. Et il y a quand même une polémique. Donc l'extrême droite annonce être présent. Et d'ailleurs, Marine Le Pen fera l'objet de beaucoup d'attention caméra. Exactement.
C'est vrai.
Donc toi, t'es là. Fait sur le plateau de LCI, il y a un petit peu cette rumeur, etc. Donc, je suis le présentateur de LCI. Issak Manoukian, panthéonisé, bonne décision, selon vous ?
Très bonne décision, parce que, justement, et ça n'est pas son habitude, pour une fois, Emmanuel Macron nous aide à recréer du commun. Et donne un peu de sens, donne un peu de contenu à cette idée de république et même de république sociale. On dirait presque que ce n'est pas fait exprès. Mais pourtant, c'est ça le sens profond, en effet, de cette panthéonisation, c'est d'inscrire aussi le pays dans cette histoire de la résistance à laquelle nous tenons tous. Et c'est pour ça que je suis particulièrement choqué. Particulièrement choqué, je vous le dis.
J'allais vous le poser, la question, oui. Mais allez-y, allez-y.
De voir la présence de Marine Le Pen, héritière d'un parti qui a une histoire liée de quand même assez près, fondée par des Waffen-SS, assez près de l'histoire de la collaboration. Alors, cette confusion ambiante, voyez-vous, je pense que le pays gagnerait à un peu de clarté là-dessus, et le président peut-être aussi.
Mais vous, président, vous auriez interdit la présence du Front National ?
Moi, président, déjà, je n'aurais pas commencé, parce que cette confusion, elle commence aussi quand on fait un hommage à Pétain, ou qu'on envisage de faire un hommage à Pétain. Le problème, ça n'est pas que Marine Le Pen. Le problème, c'est des mémoires qu'on réactive là, comme ça, au moment où on devrait, au contraire, créer... Ça n'est pas l'histoire de la République, le maréchal Pétain. Ça n'est pas l'histoire de la République, cette période-là de notre histoire.
Mais vous, président, est-ce que vous panthéoniseriez quelqu'un ?
Ben, je panthéoniserais plein de trucs, moi, il n'y a pas de problème. Ben alors... Mais bien sûr.
Mais qui alors ?
Je sais pas, j'ai pas réfléchi, là, sur le moment.
Vous avez pas une petite idée ? Il n'y a pas quelqu'un qui vous... Non ?
Johnny.
Ah, ça, non. Non. Non, 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 c'est pas sincère.
Non, c'est alors, pas sincère.
Tu réponds Johnny ou pas, sérieusement ?
Non, il y a Johnny. Une suite. Non, je réponds pas Johnny. Je peux pas répondre Johnny, ça n'a aucun sens. Une femme, évidemment, c'est logique. Qui ? Du coup,
on n'a pas le droit de souffler.
Eh ben non, il ne faut pas le faire gagner. Bon, ben tant pis, il ne pourra pas, il ne saura pas. Mais en tout cas, c'est bien, tu t'es bien défendu, malheureusement.
Bah, j'ai raté j'avais pas d'idée de panthéonisation.
Mais oui, c'est il faut. Mais une prochaine fois, peut-être. Dis-moi, Karim. Karim. Bah, dis-moi un chiffre entre 1 et
13 en tout.
J'ai rien gagné.
Ben non, je peux pas rebondir sur la personne.
Tu peux dire qui je veux panthéoniser, moi ?
Mais non,
juste pour information, tu peux le faire. Et après, tu vas avoir une aventure qui s'appelle Fermeture d'usine, donc je pense que tu vas être régalé.
Oui. Mais... bon, déjà, on panthéonisera Gisèle Halimi, hein, on ira jusqu'au bout de l'engagement. Pour la lutte féministe et la lutte contre la colonisation.
Bisous. Ou l'extrême gauche féministe. Alors, c'est clair. Leur parti de mec, là.
Karim. Ton directeur de campagne te contacte en toute urgence. Fermeture imminente d'une usine Stellantis de construction à Metz, en Moselle. La faute, soi-disant, désignée, qui est la transition énergétique, 900 emplois sur la sellette. C'est le moment d'y aller, d'être avec les travailleurs et de dire quelque chose devant les caméras. Que dis-tu ? Attention, les autres candidats pourront réagir, donc écoutez-le bien.
Travailleurs, travailleuses.
Attends,
travailleuses,
travailleurs. Je précise aussi, excuse-moi.
Dis-moi.
Il y a aussi Bruno Le Maire sur place.
Oh là, non.
Si. Il est sur place, il est en train de discuter, là, il est avec les cadres et on le traite, les travailleurs le traitent de clown en ce moment.
Ouais, voilà. Il n'est pas avec les travailleurs.
Non, non.
Non, merci. Attends, là, je dois réagir à la fermeture d'usine.
Tu es devant l'usine, avec, tu peux rien faire si tu veux, tu peux faire quelque chose, tu peux même me dire je rentre dans l'usine et je casse tout.
Mais, alors, déjà, première chose, je vais te dire que ce n'est pas à moi de parler, mais à eux, parce qu'il y en a marre d'invisibiliser la parole des travailleurs.
D'accord, déjà. Donc c'est eux qui parlent, tu t'effaces.
Moi je me tais, et par contre je suis le mouvement, toutes les actions, et même les actions de désobéissance, il faut aller tout casser dans l'usine, et s'il faut aller même prendre en otage des cadres, on le fera.
D'accord. Mais tu veux aller jusqu'au bout ou pas, au niveau de la prise d'otage ?
Mais...
tu peux, hein, vraiment, c'est un jeu de rôle. Hein.
Non, j'irai pas jusqu'au bout, parce que contrairement à mon petit copain, monsieur et vous, qui aime bien parler pour ne rien dire, nous, on va aller jusqu'au bout de la lutte, et à la fin, on aura gain de cause.
Non, mais là, vous voyez bien que moi, mon parti, famille des patriotes, on vient nous dire qu'on est anti-républicain, ils font carrément des actions illégales, et personne ne dit rien. Ça, c'est la République que vous voulez.
Mais on n'est pas...
Non, justement, votre République n'est pas celle que je souhaite. Je vous ai dit que votre République, je n'en veux pas. La sixième qu'on nous vend, je n'en veux pas. Elle est tellement has-been, je veux déjà la septième. La septième qui est celle qui va donner la parole au peuple, parce qu'il y en a marre d'avoir tout le temps vos engagements qui sont trahis, hein, en avant, en arrière, je sais pas où vous êtes. Il y en a marre. La parole au peuple, et rien que ça.
Un peu de dignité tout de même, un peu de dignité pour ces travailleurs et ces travailleuses qui ne veulent quoi que travailler, c'est tout. Aujourd'hui, vous les empêchez de faire leur travail, le travail qu'ils aiment.
C'est
parce
pas
qu'à
un
l'usine,
débat, mais...
à l'usine, c'est une passion. À l'usine, on est heureux, on porte les valeurs de la France. Nous sommes là et nous voulons les soutenir autrement. en leur permettant de travailler, mais aussi en baissant, en baissant la redevance sur l'audiovisuel, en la supprimant, en faisant aussi en sorte de supprimer les taxes locales.
Je ne subirai pas de procès en dignité face à celle qui a voulu mettre les gens 2 ans de plus en travail.
Mais je ne suis pas responsable du bilan du gouvernement.
Très bien, je ne vous ai pas entendu. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça?
Mais non, il n'a rien à dire comme d'habitude.
Non, bien sûr. Je vais venir, je vais rencontrer le maire, justement. On va parler du bassin d'emploi et tout. Et puis, je vais faire un discours un peu pincé, plutôt du côté des officiels.
Oh, bah, les écolos qui veulent décroissance.
C'est un bassin d'emploi. Bon, qu'est-ce qu'on fait après, quoi? Comment on trouve aussi pour la transition?
C'est quoi votre programme pour la décroissance, là?
Je vais même rencontrer des chefs d'entreprise.
Je sais pas trop comment gérer toutes ces situations. Je vais me tourner vers le public. Vous allez voter pour la personne qui mérite ce avant-dernier précaire. C'est quand même Karim qui remporte avec sa révolution.
Merci, peuple de la Sorbonne.
Voilà. On aurait pu avoir quelque chose d'intéressant avec une prise d'otage, mais c'est le grand moment des prises d'otages, mais non, des meetings. Et je me tourne vers toi, Karim. Karim, donne-moi un chiffre entre 1 et 30.
13, toujours.
13, c'est déjà fait, c'était Limoges.
Ok. Le numéro 1.
Le numéro 1. Eh bien, ton directeur de campagne t'a organisé un meeting dans cette magnifique ville de Grenoble, 157 000 habitants. Donc toujours cher, hein, parisien, etc. Grenoble, c'est une ville magnifique parce que... Et le problème de Grenoble, c'est ça, et je vais apporter telle solution. Je t'écoute.
Cher Grenoblois, cher Grenobloise, mais surtout, toujours, cher camarade. la richesse, parce que certains le voient comme un problème, mais la richesse de Grenoble, c'est son magnifique club de foot. Hein. Ce qui me permet de pointer un problème, qui est le problème de Grenoble.
C'est les fringues.
Ce qui est le problème de Grenoble.
S'habille n'importe quoi.
Mais qui est le problème de beaucoup de villes en France. Ces clubs sportifs, là où des éducateurs sportifs font un travail fabuleux pour notre jeunesse. Je rappelle que mon livre « Pour les jeunesses, par les jeunesses » est toujours disponible aux éditions Malek Délégué. Font un travail fabuleux. Et qui a décidé de supprimer les contrats aidés qui permettent de payer ces éducateurs sportifs? C'est eux la majorité présidentielle. Donc nous, pour les Grenoblois, pour les Grenobloises, pour les jeunes Grenoblois, les jeunes Grenobloises et pour toute la jeunesse de France, nous rétablirons les contrats aidés puisqu'on va leur permettre de s'émanciper par le sport. Parce que leur passeport, là, pour financer les petites adhésions, hein, nous mènerons une vraie politique sportive pour créer nos futurs champions, pas comme ceux-là qui vont aller se rétamer malheureusement aux Jeux Olympiques 2024, que l'on boycottera d'ailleurs.
Merci beaucoup. Ouais, c'est bon, hein. Tu gagnes 3 voix étant donné la popularité de ton public et de ton bon discours. Je précise qu'il n'y a plus de précaires. Donc, la majorité présidentielle que je représente, Macron, n'a plus de précaires. Ce n'est pas la peine de vous battre pour des précaires. Voilà.
D'accord.
Par contre, j'ai beaucoup de bobos, ou j'ai quelques super riches, donc si vous voulez draguer des gens, voilà.
Normal, les précaires, ils sont chez moi vu ce qu'on leur fait subir.
Ils sont un peu partout. C'est à toi, Charlotte. Dis-moi un chiffre entre 1 et 30.
28.
28, eh bien, c'est une ville merveilleuse, la ville de Toulon, 176 000 habitants. Donc, toujours la même chose, quelle est la spécialité de Toulon et quel est le problème de Toulon que tu vas résoudre? Je t'écoute.
Les fachos.
Non.
Les militaires.
On n'est pas en débat, hein, je vous rappelle. je fais mon meeting de campagne, donc laissez-moi parler. Donc, chers Toulonnais, chères Toulonnaises, je suis vraiment très heureuse d'être là ce soir. Heureuse parce que Toulon, au-delà d'être une ville fabuleuse, riche, la Côte d'Azur, les palmiers, c'est fabuleux. J'adore ça. Ça me fait du bien d'être ici avec vous. Il y a aussi à Toulon ce bassin d'emploi qui est autour de l'industrie, de l'armement. Et c'est quelque chose de très important pour nous, la guerre. Et vous savez à quel point nous aidons nos entreprises à s'exporter à l'étranger.
Un tiers de la ville, c'est des militaires qui t'écoutent attentivement, là.
Eh ben, je sais bien, oui. Tu penses. Vous savez à quel point nous aidons nos entreprises de l'armement, qui sont vraiment le fleuron industriel français, dont nous pouvons être fiers. Et cette souveraineté, elle est là aussi. La souveraineté pour l'armement. La souveraineté et la possibilité de se reposer sur une armée qui est solide, sur des militaires qui croient en l'avenir de la France, qui savent défendre nos valeurs au-delà de nos frontières. Car oui, nous sommes menacés. Nous vivons dans un monde menacé. Et Toulon, avec son port, est menacé. Et il faut, dès aujourd'hui, construire notre avenir ensemble autour d'une France forte, d'une Toulon forte, avec une armée qui soit
forte,
forte, mais aussi innovante
et menaçante,
avec les moyens dont nous avons besoin pour que cela fonctionne correctement. Il faut notre sécurité et retrouver notre souveraineté militaire. Et je vous remercie de faire tout ce qu'il faut au quotidien. Je souhaite aussi remercier vos cousins, les policiers, qui sont là et qui maintiennent l'autorité dans notre pays. Car oui, c'est important.
Un magnifique discours. Merci beaucoup. Tu gagnes 3 voix. Et enfin, Marie-Caroline, dis-moi un chiffre entre 1 et 30.
29.
29, 29, ce sera à Saint-Étienne, 173 000 habitants. Je t'écoute.
Facile, c'est tout frais, ça.
Oui. Encore chaud.
Ouvrier, ouvrière. Stéphanoise, Stéphanois. Yes. Je suis très heureuse de me retrouver ici, dans une ville qui est maintenant un bassin abandonné de l'industrie française. Le fleuron français, les ouvriers, les ouvrières, les usines ont fermé. C'est un choc pour vous. La ville se vide complètement pour ces bourgeois lyonnais dont je connais, puisque j'en fais partie également, je suis désolée pour ça. Vous perdez l'entièreté, évidemment, de vos commerces au profit de Lyon. Des jeunes viennent vivre chez vous, mais préfèrent partir faire leurs études à Lyon. Les familles sont complètement dévastées. Le problème majeur à Saint-Étienne aujourd'hui, c'est ça. C'est de ne plus avoir de famille jeune et dynamique présente à Saint-Étienne. Je veux soigner la famille française, vous le savez, et je veux aussi soigner Saint-Étienne. Je mettrai en place pour l'entièreté du territoire français une politique de natalité forte à laquelle les Stéphanoises et Stéphanois auront accès. Évidemment, avec des soutiens, des sages-femmes qui viendront vous aider, un accompagnement, bref, la maternité, des vraies crèches, de l'argent qui est mis avant tout pour les enfants.
Alors, tu n'es pas ma chouchou, mais je trouve que c'est un discours très beau, parce que tu as parlé du bassin minier, de la jeunesse. Bon, je connais bien Saint-Étienne, tous les problèmes sont là, bravo. Tu gagnes 4 voix.
Non, mais t'es grillé, Fibre, hein, c'est pas...
Non, mais c'est un magnifique discours, je suis désolé, t'es en fin de bain.
Alors, merci. Où est-ce que je vais me vautrer, moi?
Eh bien, c'est à toi de me le dire. Tu me dis bien un chiffre. Vas-y, c'est parti.
2.
2. Nous allons à Dijon.
Ah, oh, pas mal.
156 000 habitants.
C'est incroyable, Dijon, ne râle pas.
Bon.
Alors, chers habitants de Dijon, vas-y, dis-nous. Toujours, c'est quoi la ville? C'est quoi les problèmes? C'est quoi les solutions?
C'est quoi les problèmes? Ouais. Chers Dijonais, chères Dijonaises. Normalement, c'est bon, ça.
Edin.
Moi, j'ai remarqué quelque chose dans cette... vous savez pourquoi je viens aujourd'hui ici, à Dijon? C'est parce que j'ai vu aussi que Dijon a toutes les qualités pour faire cette transition écologique en termes notamment de bassin d'emploi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à partir du moment où, dans cette campagne présidentielle, j'ai commencé à parler de bassin d'emploi, tout le monde s'est mis à me dire bassin, bassin d'emploi. C'est devenu... Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à un moment, il faut parler de ce sujet qui, évidemment, vous préoccupe, vous, particulièrement, mais il faut parler du chômage. Et je suis venu ici avec une étude de France Stratégie. Voilà, j'ai une étude de France Stratégie.
Oui, là. Parti.
Voilà. Qui dit qu'il y a 8 millions d'emplois à créer dans les 5 années à venir pour la transition écologique. Et ça, c'est précisément dans les endroits les plus désindustrialisés que ça a du sens de remettre un petit peu de cette activité-là.
L'industrie de Dijon qui est...
Mais l'industrie de Dijon, ce n'est pas que la moutarde, et je le sais.
Est-ce qu'on peut dire que la moutarde lui monte au nez?
Ouais. Mais donc voilà. Donc c'est pour ça que je suis venu là. Pourquoi? Ce qu'on oublie souvent de dire à propos de ces ans, on a l'impression que, voilà, je suis souvent caricaturé. Ah, il va juste faire des pistes cyclables. Non, pas du tout. Ces emplois dont on va avoir besoin, ce sont des emplois d'ouvriers. Ce sont des emplois qui, dont on a l'impression que dans un moment, il y a eu un choix qui a été fait, il n'y a plus d'ouvriers. Non, bien sûr qu'il faut toujours des ouvriers, il faudra des bras, il faudra beaucoup de monde, et il faudra aussi un niveau d'études qui soit à la mesure des défis du futur, et c'est aussi pour ça qu'il s'agit aussi d'établir beaucoup de campus. On va faire un grand plan partout en France, et je suis venu ici pour vous dire qu'il y aura maintenant un nouveau campus tourné sur les nouvelles technologies et les métiers d'avenir pour la transition écologique à Dijon. Ça fera pas de mal.
Écoute, c'est pas mal. Tu gagnes les bobos de Dijon. Et t'en as trois. Karim, c'est...
Non, je voulais des ouvriers,
on l'a fait,
moi.
Ou pas, toi?
On l'a fait.
Très bien. Eh bien, c'est parti pour le deuxième débat. Ah non, est-ce que tu as une casserole en cours, je crois, encore? Est-ce que tu veux passer pour en parler?
Mais volontiers.
Merci. Très bien. Donc, écoutez bien, c'est vous qui allez voter sur la casserole. Donc, de quoi veux-tu parler? Dis-moi sur quelle chaîne de télé tu vas, déjà.
Pour celle-ci, je pense que ce serait pas mal d'aller sur... Ah là là, pas facile. Sur Quotidien.
Allez, tu vas à Quotidien, très bien.
Tellement Quotidien.
Et donc, de quoi nous recevons aujourd'hui à Quotidien, incroyable, la candidate à la présidentielle, Charlotte. Et donc, Charlotte, vous allez nous dire, vous voulez revenir sur une affaire qui peut-être un malentendu.
Oui, tout à fait. Bah, je crois que c'est un peu ça, hein, le nœud du problème, effectivement. Merci de le souligner. Alors, on me reproche d'avoir acheté un appartement en cash. Bon, ça, je vois pas pourquoi, où est le problème. Hein, je veux dire, il y a 90%...
C'est pas illégal, mais c'est surprenant.
Alors, très bien. Eh bien, il se trouve que j'avais du cash. Je veux dire... Est-ce que c'est mieux que d'acheter, je ne sais pas moi, de la drogue?
Mais 2 millions en cash, ça fait combien de valises?
Alors, c'était pas tout à fait 2 millions, c'était 1,8 million. Et puis finalement, à Paris, c'est pas grand-chose, hein, quand on voit le prix du mètre carré. Je veux dire, personne n'est surpris de voir qu'un loft à Paris coûte 1,8 million. Voilà. Donc, c'est ce qui m'est surtout reproché, c'est pas tant de l'avoir acheté en cash, hein, c'est surtout de l'avoir acheté en cash après la vente d'œuvres d'art qui m'appartenaient, puisque je les ai vendues d'un artiste contemporain géorgien, qui est un très très grand artiste.
Alors, on m'a dit que c'était des tableaux flamands.
Alors oui, merde, j'ai oublié.
Non, c'est pas grave.
C'est un géorgien qui peint des flamands.
Non, mais tu peux dire c'est faux, c'était des tableaux géorgiens.
Alors non, c'était pas des tableaux géorgiens, c'était pas des tableaux flamands, c'était des tableaux du monde.
Du monde entier.
Oui, parce que vous le savez quand même, chez Quotidien, vous êtes attentif à l'art. L'art dépasse les frontières. Voilà, et surtout l'art contemporain aujourd'hui.
Mais en fait, ce qu'on vous reproche vraiment, c'est qu'on n'a jamais vu ces tableaux, on ne sait pas à quoi ils ressemblent. Ils étaient beaux.
Mais est-ce que vous êtes déjà venu chez moi? Mais vraiment, est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui, lorsqu'on est candidat et candidate à la présidentielle, d'ouvrir les portes de son appartement? Je veux dire, est-ce que les autres candidats se mettent presque nus quand ils viennent chez vous? Non, je ne pense pas. Est-ce que vous êtes déjà allé dans la ferme de Fabien et vous? Non. Est-ce qu'il vous a déjà ouvert ses portes?
Oui, mais lui,
est-ce
il a
que
pas...
vous êtes déjà allé dans le squat?
Il n'avait pas 1,8 million en cash.
Bien sûr.
Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que...
Ce que je veux dire, c'est que ma vie privée n'a pas été respectée. Et ça, c'est inacceptable. Dans un pays où on souhaite la liberté de toutes et de tous, sachez que la liberté, votre liberté, ma liberté, s'arrête où celle... des autres débutent. Et moi, j'ai besoin de cette intimité.
Alors, juste une question.
Oui.
Ils existaient vraiment, ces tableaux?
Mais bien sûr qu'ils existaient.
Non, voilà.
Comment j'aurais pu?
Et par exemple, juste.
J'ai vendu des NFT, c'est pour ça qu'on les a pas vus.
Mais comment on les a pas vus? Est-ce que vous pourriez nous en décrire un?
Oui.
Alors, vas-y.
Est-ce que vous savez décrire l'art contemporain?
Donc, c'était quoi?
Je vous pose la question.
Non, mais c'est surtout un ressenti.
C'était de l'abstrait, exactement. Voilà. C'était une expérience.
C'est tableau du monde, mais abstrait.
Alors. C'est de l'art, donc ça dépasse nos frontières. Ça ne représente pas le monde, ça représente l'humanité.
D'accord.
Ah, de façon c'est deux journaux très différents. C'est vrai.
Très bien, je vais me retourner. Est-ce que vous êtes convaincu? Donc vous mettez un jaune si vous êtes convaincu, c'est très bien, on oublie. Et une autre couleur si vous n'êtes pas convaincu.
Non, là encore, ça se tient.
Oui, c'est en demi-teinte. Hein. C'est pas très franc. La casserole reste. Et je vais appeler Léo Salami qui va présenter le deuxième thème. Très technique, j'attends de la technicité de votre part, le service public.
Ah. Rebonsoir. Alors, les services publics en France font l'objet de grands débats pour plusieurs raisons.
La France a une longue tradition de service public, considérée comme un pilier de la cohésion sociale et de l'égalité des citoyens devant l'accès aux services essentiels. Les discussions sur l'ampleur de l'intervention de l'État dans l'économie et la vie quotidienne sont fréquentes et passionnées. Le financement des services publics, notamment la santé, l'éducation et les transports, est le sujet de préoccupations majeures. Avec un haut niveau de dépenses publiques, la question de l'efficacité de la gestion et de la soutenabilité financière est centrale. Les tentatives de réformer les services publics, que ce soit par la privatisation partielle, la réduction des coûts ou la réorganisation, rencontrent souvent une forme de résistance de la part des syndicats, des employés du secteur public et d'une partie de la population attachée à la préservation du modèle social français. Les débats portent également sur la qualité et l'accessibilité des services publics. Les disparités régionales, les temps d'attente ou encore l'adaptation aux nouvelles technologies sont des sujets récurrents. Les services publics sont au cœur des enjeux sociaux et politiques, reflétant les attentes des citoyens en matière de solidarité, d'équité et de qualité de vie. Ils sont souvent au centre des campagnes électorales et des mobilisations sociales.
Donc, vous avez des petites billes pour commencer le débat. Et le Desta a choisi Karim pour s'exprimer en premier sur les services publics en France. Services publics, est-ce que tout va bien? Est-ce que les choses vont pas bien? Et si les choses vont pas bien, c'est quoi vos solutions?
Avant tout, je veux rappeler ce qu'est le service public. C'est le patrimoine de tous, mais c'est surtout le patrimoine de ceux qui n'ont rien.
N'en ont pas.
Ceux que je défends, donc. Et qu'avez-vous décidé, vous, majorité présidentielle, depuis maintenant 10 ans? C'est de détruire justement ce patrimoine de ceux qui n'ont rien.
Bien sûr.
Service public, la fonction publique territoriale, on casse. Le service public dans l'hôpital public, on casse. Dans l'éducation nationale, on casse. Dans la petite enfance, on casse et encore on casse.
Tout est cassé, quelle est la solution?
Eh ben,
pareil,
je vous rappelle, parce que c'est vraiment la proposition sur laquelle je m'appuie dans tout mon programme. Celle de taxer les riches, celle de taxer les hauts revenus en France et celle de taxer ceux qui décident de faire d'évasion fiscale. N'est-ce pas Johnny Hallyday? Avec cet argent, nous mettrons 15 milliards.
Allez.
Oui, ben oui, pourquoi aller?
Allons-y.
Mais l'évasion fiscale, c'est combien? Plus de 120 milliards.
Avec l'immigration, ça fait déjà 20 milliards pour votre projet. Hein.
Et alors, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est votre oseille? Pas du tout. Bon.
Je rappelle.
Pas le vôtre. Hein,
l'évasion fiscale, vous m'avez demandé de la technicité. L'évasion fiscale, c'est 120 milliards d'euros. Qu'est-ce que c'est 15 pauvres milliards d'euros pour mettre le paquet dans l'école, pour mettre le paquet pour nos infirmières, pour nos médecins, pour nos professeurs, pour ceux qui gardent nos enfants, ceux qui sont dans nos administrations? Ce n'est rien. Laissez-moi vous dire, je suis le seul candidat autour de cette table qui veut défendre le service public et donc le peuple de France.
S'il vous plaît.
Rompiche.
S'il vous plaît.
Et là, c'est le moment où peuple de la Sorbonne, vous devez applaudir, mais c'est pas grave.
Il demande les applaudissements quand même. Hein. Justement, Charlotte, vous avez intervenu, vous avez envie de parler, c'est à vous. Dites-nous.
Oui, alors, bon, je ne répondrai pas aux attaques du candidat d'extrême gauche qui, de toute façon, vraisemblablement.
Qui extrême gauche? Moi? Mais qui allait celle-là?
Ne sait pas de quoi il parle, sachant que, bref, on connaît ses accointances avec l'ancien parti qui a laissé l'état de notre service public dans un état catastrophique. Moi, je pense qu'il est très important aujourd'hui de dire la vérité aux Françaises et aux Français. Hein, voilà, partons de là déjà. Au lieu de leur mentir avec des milliards qui sortiraient d'on ne sait où. Donc déjà, il va falloir déconstruire la notion de gratuité hein, du service public et aussi rappeler que c'est la fin de l'abondance.
Mais alors,
à partir du moment où on l'a dit ça...
Il n'y a pas de problème pour vous?
Alors, bien sûr que si.
Mais quel est le problème?
Nous sommes endettés à hauteur de plus de 90% de notre PIB.
Donc le service public est un problème. Il n'a pas de problème, mais il est un problème.
Ça coûte un pognon de dingue. Pognon de dingue. Les chiffres, la note de la France par Standard & Poor's et Sterling & Company à moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre charge de la dette augmente, que nous ne sommes plus compétitifs sur les marchés.
Et votre solution,
financiers.
C'est?
J'ai une solution très forte. Je sais que ça va vous surprendre, mais il y a bien un service public qui n'est plus performant aujourd'hui.
c'est l'éducation. On le voit, le classement PISA nous le dit, les élèves sont de plus en plus nuls. Les professeurs sont de plus en plus nuls.
Tout est nul.
On dirait qu'ils ne veulent plus être
donc,
là.
Ce problème sont des gens et votre que l'on solution paye.
Le ministère de l'éducation, c'est un des ministères qui nous coûte le plus cher.
Donc,
j'annonce aujourd'hui que si je suis élue demain, ce sera la privatisation intégrale du service public de l'éducation.
Et ben, c'est une mesure forte.
C'est une mesure forte et j'ai écouté les Françaises et les Français. Car celles et ceux qui ont les moyens ne mettent plus leur enfant à l'école publique. À quoi bon conserver ce service? À quoi bon le conserver? Je pose la question.
Merci beaucoup. Fabien, je vous écoute. Alors, on peut m'applaudir. Mesure très forte.
Non, non, ne la huez pas, combattez-la.
Attendez, excusez-moi, en tant que MJ, je voudrais rappeler qu'elle a le mérite d'avoir une mesure forte à présenter.
Et cohérente.
Assez rare dans ce jeu
cohérente.
De rôle. Donc, voilà, donc vas-y.
Oui.
Merci.
Bon. Évidemment que les services publics sont au cœur de ce que la République a aussi à offrir pour créer du commun. Mais bien sûr que c'est... Évidemment. Et je ne suis absolument pas contre le fait qu'il faille réévaluer un certain nombre de partenariats publics-privés qui n'ont pas toujours été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Je pense notamment aux régies des eaux. Dans certaines de nos grandes mairies, nous avons remunicipalisé la gestion des eaux. Et en effet, il y a un service qui est rendu. Et je pense aussi, par exemple, à la gestion des encombrants, au ramassage des poubelles. Et tout ça, ça vous fait rire.
Eh bien, lorsque j'étais au budget, les poubelles à Bercy, il y en avait toujours beaucoup pour bloquer l'entrée. Vous n'avez rien fait
d'accord.
contre ça.
Très bien. Eh ben, je ne m'occupe pas du budget pour l'instant, mais ça ne saurait tarder.
C'est
ne
quand
vous
même
en
à Paris.
Pas. Très bien. Et donc, il y a une autre chose, pas de service public. Et ça, mon camarade l'a rappelé, pas de service public sans fonctionnaire. Pas de service public sans fonctionnaire. Si je peux, vous auriez quelque chose contre le fait de réévaluer le point d'indice de manière significative et le réévaluer avec un effet de rattrapage. Parce que ça fait plus de 10 ans que ça n'a pas été fait et qu'on doit ça à la France parce que on doit ça à nos fonctionnaires, parce qu'on doit ses fonctionnaires et ses services publics à tout le reste aussi de la France.
Donc vous voilà, avez été incapable réévaluer de gérer votre mairie, vous avez des emplois fictifs, je vous le rappelle.
J'ai pas d'emplois fictifs, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Il y a des accusations.
S'il vous plaît, restons sérieux. Donc mes deux mesures, réévaluation immédiate du point d'indice avec rattrapage de ces 10 ans ou de ces 20 ans, je sais plus, où j'ai pas lu le rapport France Stratégie, là, je l'ai plus sous les yeux. Et bien sûr, faire cesser un certain nombre de partenariats public-privé qui sont une gabegie, on sait qui se gave derrière, et il faut en effet que les citoyens puissent reprendre la main sur leur service public.
J'entends déjà des applaudissements avant même que vous ayez terminé. En dépit d'une intervention, encore une fois, très technique, et maintenant c'est à vous, Marie-Caroline, j'ai hâte de vous entendre sur les services publics.
Oui, il faut savoir que quand j'ai pris le temps de faire mon meeting à Saint-Étienne, je me suis baladée dans la ville et j'ai rencontré Christelle. Christelle, qui est jeune maman, et à la sortie de son école, elle m'a parlé de sa souffrance, de la souffrance de sa petite dernière en situation de handicap, qui n'est maintenant plus autorisée à aller dans des classes normales, puisqu'il n'y a personne, aucune personne habilitée à pouvoir l'accompagner au sein des classes primaires normales. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème dans nos services publics, c'est que l'argent est mal utilisé. Les subventions vont à des associations qui promeuvent la théorie du genre et qui apprennent à des enfants de primaire à comment se masturber. C'est extrêmement grave.
C'est vrai.
Ce n'est pas en accord avec les valeurs.
Pour vous, c'est le problème des services publics ?
Je pense que l'argent est mal utilisé. Ça va dans des subventions d'associations qui ne promeuvent pas les valeurs de la France.
Vous, présidente, la solution au problème des services publics, c'est les associations.
C'est d'enlever... D'ailleurs, la majorité supprimer a commencé à le faire.
Supprimer l'éducation, point.
Non, c'est d'enlever les subventions aux associations qui font clairement du séparatisme et qui ne sont pas en accord avec les valeurs de la France. Ça, c'est la première mesure.
C'est pour
mesure.
Ça que nous avons créé le fonds Marianne.
Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, comme vous le savez, je n'ai jamais travaillé de ma vie. Je suis femme au foyer, j'ai élevé mes 6 enfants, comme de nombreuses femmes dans notre pays aujourd'hui.
Elle veut
mais pire,
un budget.
Pire que ça, de nombreuses femmes aujourd'hui souhaiteraient le faire et ne peuvent pas le faire. Elles ont des difficultés à pouvoir vivre. Mon souhait, c'est que ces femmes-là soient fonctionnarisées puisqu'elles servent l'œuvre de la nation. Je souhaite que les femmes au foyer soient fonctionnaires.
Vous avez chiffré ça ?
Je voudrais pouvoir répondre.
Ah, bien sûr, vous allez répondre. Mais en tout cas, c'est... je vous félicite encore une fois, Charlotte, Marie-Caroline et Fabien. Vous avez des propositions très fortes. Bon, également, j'ai entendu les 15 milliards. Je vous félicite pour les propositions concrètes. C'est ça qui fait avancer le débat. On va lancer sur le chat un sondage pour savoir qui est le plus convaincant de vous quatre. Il gagnera 4 voix. Et il y aura 2 voix qui seront attribuées par le public.
Je veux répondre.
Alors, sur les services publics. Priorité, si on garde l'ordre, mais comme vous êtes tous les deux motivés, d'abord Karim.
D'une phrase, pendant que l'une nous parle de théorie.
Une phrase, hein,
théorie de genre, et qu'on a Tic et Tac qui sont en train de nous parler de chiffres, l'une qui dit que les professeurs sont nuls, et l'autre qui nous dit on va relever le point d'indice, on sait, significatif, on sait jamais ce que ça veut dire, parce qu'il n'y a pas de chiffre derrière.
Parole,
moi, je parle d'humain. Ce service, je rappelle que le service public nous appartient à nous, peuple de France.
Mais ah bah les femmes, les femmes sont pas des humaines pour vous. Elles n'ont pas le droit d'avoir un salaire. Non, mais c'est sûr que les services publics, ça vous en profitez. Vous ne faites que ça. Vous ne faites que ça.
Et regardez ce discours qui monte. Ce discours
des assistés,
puant.
Voilà. Ils sont en train de promouvoir l'assistanat public.
Il n'y a pas de problème de temps de parole parce que chacun a le droit de passer 2 fois. Il a utilisé sa 2e fois. Fabien voulait absolument réagir.
Moi, j'étais très intéressé par cette histoire sur l'enfance, sur l'argent qui irait vers des associations. Moi, il y a un secteur qui m'intéresse beaucoup, c'est celui de l'aide sociale à l'enfance. Alors là, en effet, il y a de l'argent qui va vers des associations parce que l'État n'assume pas d'avoir un service public national de l'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, ce sont les départements qui s'en occupent et parfois l'argent part vers des associations qui s'en occupent très mal. Donc ça, c'est une autre de nos propositions, renationaliser l'aide sociale à l'enfance. Et pour ça, il va aussi falloir des fonctionnaires, employer des fonctionnaires, parce qu'on doit ça aussi à nos enfants. Et on doit ça aux enfants. Mais si, ce sont les enfants de la France, ça aussi. Mais peut-être que s'ils ne sont pas les vôtres, ça ne vous intéresse pas.
C'est bien, c'est une réponse très technique finalement.
C'est des enfants qui ne travailleront pas.
Mais ça, c'est un service public essentiel.
Vous avez envie de réagir ou pas? Ou c'est terminé pour vous?
Ah non, moi j'en ai eu assez. De toute façon, j'ai dit ce que je devais dire. Supprimer le service public de l'éducation qui n'apporte rien, qui effectivement surfe avec des théories douteuses, doutes.
Alors, juste pour construire le débat, que pensez-vous de cette idée de fonctionnariser les femmes au foyer?
Oh, je pense que dans l'absolu, ce n'est pas une mauvaise idée.
Ah.
Mais je pense que malheureusement, la candidate d'extrême droite ne comprend pas en fait la gestion d'un budget. Puisque comme elle l'a dit, elle a passé son temps au foyer. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai été ministre du budget. Je sais ce que c'est. Elle a dû gérer quoi? Un budget de frigo pour une famille de 6 enfants?
Non, il y a tout le petit personnel.
Moi, je sais. Moi, je
sais. Il faut payer tout le petit personnel.
J'ai géré le budget de la France. Et j'ai vu la réalité du budget de la France. C'est très moche. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Parce que
peut-être aurait-il fallu le faire comme un bon père de famille, ainsi que l'expression est consacrée.
Ou une bonne mère de famille, effectivement.
C'est ce que je propose.
Mais personne ne m'écoute. Elle n'est pas prête. On le voit bien. Personne ne chiffre. Alors 15 milliards ici. Ça coûterait combien, d'après vous, de fonctionnariser les mères au foyer?
Je n'en sais rien. C'est à vous de me le dire.
Eh ben voilà. Je ne sais pas.
C'est à Karim. Non, c'est à vous de le dire.
Oui.
La parole est à vous. Dernière intervention.
Elle ne le sait pas.
Ça coûterait combien, à vue de nez, comme ça?
Ça coûterait l'argent que nous coûte aujourd'hui, et là j'ai les chiffres de mon ami Éric Zemmour, ça coûterait ce que nous coûte aujourd'hui l'immigration illégale.
Voilà,
que vous ne savez pas gérer, et vous enfermez les gens dans des centres de rétention.
Vous avez voté
fermeture des centres de rétention,
loi sur l'immigration.
Donc bon. Je pense que chacun aura vu que sur les services publics, il y en a qui viennent avec des propositions, il y en a qui viennent avec des incantations, voire des choses abracadabrantesques. Bon, très bien.
Alors, je veux bien que la régie me donne les résultats du sondage et je vais me tourner vers vous pour que vous me disiez qui, parmi ce groupe, vous a le plus convaincu.
Allez, là.
Ouais.
Bah, c'est Fabien.
C'est vert.
Ah. Fabien, moi, je dois dire, je suis un peu un noob de la politique. Je n'ai rien compris à ce que tu as dit sur le point d'indice, tout ça. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup. Donc, 4 pour Fabien. Et la personne qui a le plus convaincu, le chat, c'est Marie-Charlotte.
Allez.
Non, c'est Marie-Caroline.
Un chat de fasciste, attention.
Non, c'est pas ça, mais là, beaucoup de mères de famille en ce moment se sont dit « J'aimerais bien toucher mon petit SMIC, je pense. »
C'est plus que c'était, le chat. Hein.
Nous allons continuer vos aventures. Je me tourne vers toi, Karim. Non, excuse-moi, je me tourne vers toi, Charlotte. Charlotte, dis-moi un chiffre entre 1 et 60.
42.
42. L'IVG, trop ou pas assez?
La chance.
Le droit à l'IVG a été constitutionnalisé après une bataille qui a vu d'ailleurs beaucoup d'opposition, parfois de mauvaise foi, au sein des politiques. Le soir de la célébration de ce qui constitue pour certains une partie, une avancée sociale, d'autres trouvent que c'est clairement pas assez, voire même que c'est inutile. En effet, la double clause de conscience des médecins constitue une faille à l'exercice de ce droit, tout simplement parce qu'un médecin peut dire, pour résumer, je ne veux pas pratiquer cet acte. Donc vous, par rapport à ça, Charlotte, c'est quoi votre positionnement ?
Par rapport à l'IVG ?
Oui. Par rapport à la constitutionnalisation de l'IVG ?
Alors moi, je pense que
c'est utile ou pas utile ?
C'est une chose très importante.
Positive ou négative ?
Très positive.
D'accord.
Très positive. C'était une volonté de la majorité présidentielle et je dois le reconnaître à notre président Emmanuel Macron que c'était une mesure très forte de son quinquennat qui prouve que le « en même temps » est possible. C'est-à-dire que l'on peut effectivement avoir une politique de droite pour certaines choses et de gauche pour d'autres choses. En l'occurrence, ça me semblait très important de consacrer ce droit pour celles, parce que ceux, bah, du coup, on ne voulait pas leur consacrer, ça vous le savez bien, puisque le texte a été réécrit pour que ce soit les femmes uniquement qui bénéficient de ce droit. C'est important de le dire. Et le président de la République était très, très, très sérieux sur ce terme-là. Il y a aussi la nécessité de respecter celles et ceux qui ne veulent pas ôter la vie. Et donc, il est important que la clause de conscience soit préservée.
Donc,
et le président de la République s'est battu pour ça. Et il faut la conserver. Car il est faux. C'est une avancée majeure pour les femmes dans notre pays. Alors, à celles et ceux qui veulent gâcher la fête en disant que finalement, ce n'est pas effectif, c'est faux.
Alors, c'est justement le soir de la fête. Et là, tu viens de dire, en gros, Macron, il est super, il a une super idée. Ce qui ne te conforte pas dans ton avancée à la présidentielle, parce que tu es en train de faire réélire son futur candidat. Cependant, s'il y a quelqu'un autour de cette table, pour, dans le cadre d'un jeu de rôle, évidemment, qui est contre la constitutionnalisation de l'IVG, qu'il se prononce ou se taise à jamais, ou s'il y a quelqu'un qui dise, ce n'est pas assez, avec des arguments, il y a un bobo qui écoute et il y a un ultra riche, Bolloré, qui écoute aussi.
Moi, je voudrais réagir. Hein.
Oh, ouais, très bien, pour commencer.
Non, déjà, alors, je réagis où ? Je réagis quand ? On est dans quoi, là ? C'est quoi le contexte ?
C'est la fête. C'est la fête,
c'est la fête de quoi ?
De la constitutionnalisation de l'IVG.
Ah, d'accord.
On est le soir. C'est dans les fusions. Tout le monde est dans les rues. Il y a les caméras de BFM TV qui te rencontrent. Mmh. T'as quelque chose à dire ?
Très bien. Oui, non, mais moi, évidemment, on peut que se féliciter de la constitutionnalisation de l'IVG, même si il y a quelque chose, évidemment, que les militants et les militantes pour les droits des femmes ont noté, c'est que il y a des hommes trans aussi qui peuvent avoir besoin d'avortement, par exemple. Et on ne sait pas que ça. J'ai l'impression que le fait d'avoir sanctuarisé le mot femme, etc., ça n'était pas du tout anodin et que c'est aussi une attaque contre les droits des personnes trans. C'est-à-dire là où on devrait créer du commun, célébrer du collectif, on se retrouve en fait avec une petite mesquinerie glissée spécifiquement pour envoyer un signal à un électorat réactionnaire qui de plus en plus a envie de ce genre de choses.
Très bien, alors il y a un bobo sensible, mais peut-être que Karim va le reprendre, dis-moi.
Je veux déjà en fait remercier non pas Emmanuel Macron mais la camarade Mathilde Panot, grâce à qui nous pouvons aujourd'hui avoir la constitutionnalisation de l'IVG. Mais faisons la fête, mais ce n'est pas assez parce que malheureusement nous continuons de comptabiliser les féminicides au quotidien. Nous continuons de regarder votre totale inaction face aux violences sexistes et sexuelles, alors que vous pourriez en réalité vous élever. Et c'est simple, par des mesures concrètes. Moi, président de la République, je mettrai 5 milliards contre les violences faites aux femmes en s'inspirant du modèle espagnol, avec un parquet spécialisé, en n'ayant aucune compassion pour les auteurs de féminicides, de violences sexistes et sexuelles. Quand vous, membre de la majorité présidentielle, vous vous félicitez pour des initiatives qui ne sont
vraiment,
même pas les vôtres.
C'est vraiment
c'est pas
très
un débat,
bien.
C'est la fête.
C'est vraiment très bien, mais ça ne parle pas vraiment de l'IVG pur jus, tu vois. Mais c'est pas grave.
L'IVG est relié aux droits des femmes, mon cher ami.
Moi, ce que je vois, c'est que ce sont des hommes qui prennent la parole sur ce sujet ou des femmes qui n'ont pas d'enfants. Et ça, je pense que c'est l'une des dérives principales des néo-féministes. Moi, je suis féministe identitaire et je peux vous dire que les néo-féministes ne représentent pas l'entièreté des femmes. Je suis candidate de la droite dure et je pense effectivement que là, on est face à un épouvantail. C'est-à-dire qu'on nous met le droit à l'IVG, la constitutionnalisation de tout ça, très bien, et les vrais sujets derrière. Donc là, on est clairement dans une manière de pouvoir détourner l'opinion publique des vrais problèmes. Je trouve que c'est ridicule de rajouter ça à la Constitution. Je trouve que c'est une atteinte, justement, à la liberté de conscience des médecins. Et moi, je suis choquée de tout ça.
Ce sera un super riche pour Marie-Caroline. Il y a un bobo qui est tombé, mais il est pour Fabien.
Ah.
Et je me tourne vers toi, Fabien, d'ailleurs, qui vient de gagner une voix supplémentaire, pour me dire un nombre entre 1 et 60.
Ah, oui, 4.
4-4, les lois du nouvel an.
Lois du nouvel an ?
Chaque nouvel an, il y a des nouvelles lois.
Ah bon ?
C'est le nouvel an. Et t'avais rien à faire, donc le 1er janvier, t'es sur BFM TV. On te propose de faire tes vœux, tu les fais. Voilà, y a, c'est une ambiance un peu festive. Et le 1er janvier, on te fait part de toutes les lois qui sont passées par le gouvernement et on te demande de les commenter. Est-ce que t'es d'accord ou pas ? Donc voici les lois. Pôle emploi est devenu France Travail. Le timbre est passé à, et a augmenté de 1,13%. Les femmes disposeront désormais d'un arrêt maladie pour fausse couche. Il y a prolongation du ticket restaurant pour acheter de la nourriture au supermarché. Ça avait été supprimé, ça a été prolongé finalement. Lancement de mon leasing électrique. Le tri des déchets est désormais obligatoire. Le permis de conduire à 17 ans, c'est possible. Prime pour la mise en location de tout. Et dans les tribunaux, mise en place de pôles violences intrafamiliales, ça vous intéressera, Karim. Quand on voit toutes ces lois, Fabien, n'a-t-on pas l'impression d'un grand mieux et d'un gouvernement qui agit ?
Je trouve ça très significatif de se dire, en effet, tiens, les Français, pour se nourrir aujourd'hui, ils ont besoin peut-être davantage de tickets resto. Je pense qu'on va faire beaucoup de pirouettes un petit peu dans tous les sens. Ce gouvernement est très fort pour ça, faire tout pour, sauf augmenter les salaires. Je pense qu'il faut qu'on fasse une grande conférence des salaires avec le patronat, qui a aussi intérêt à ce qu'on... Parce que les salaires, c'est aussi la consommation. Et donc, le gouvernement tourne autour de... Par contre, là, quand il s'agit de mettre au travail les gens, si possible, le plus tôt possible...
Alors, t'es en train de parler, juste, t'as une petite idée dans ta tête, tu dis, ah, il n'y a plus de précaires sur le marché, mais vas-y, continue.
Ah, oui.
Il n'y a plus de précaires à gagner, mais bon, vas-y.
Ah, merde, les précaires. Oui, non, c'est assez significatif aussi, cette histoire de permis à 17 ans. Moi, je trouve ça fou. C'est-à-dire que on sait pourquoi c'est fait. Il est hors de question, on voit bien qu'on a un gouvernement qui ne veut pas que la jeunesse s'engage en politique, on le voit à tout bout de champ, première manif, ils sont systématiquement réprimés. Ceci dit, ah par contre, prenez le permis. Tiens, ça c'est intéressant, pourquoi ? Pour qu'ils aillent travailler plus tôt. Pour qu'ils aillent au travail plus tôt, qu'ils puissent aller en apprentissage, à gauche, à droite, qu'ils soient mobiles. Alors là, pas de problème, on va leur payer le permis. Donc ça, c'est typique de ce gouvernement. Qui veut mettre les jeunes au travail sans leur donner de droits, sans les écouter. Les jeunes, c'est vraiment travail et ferme ta gueule, de plus en plus.
Alors, ça, c'est un discours qui plaît aux jeunes, mais pas suffisamment. Ils sont contents quand même d'avoir le permis un an plus tôt, tu sais.
Bah, ils sont cons, parce que j'ai pas dit ça, hein, là, je te réponds.
Oui, je me tourne vers Marie-Caroline. Marie-Caroline, dis-moi un chiffre entre 1 et 60.
43.
Ça va être crise à l'éducation. Aïe, aïe, aïe. Alors, crise à l'éducation, c'est parti, sujet qu'on vient un peu de traiter, mais on retraite. Alors que c'est la rentrée de janvier, tu es reçu par Jean-Jacques Bourdin pour te cuisiner sur diverses questions. Il est probable que les questions tournent autour de la rentrée scolaire qui est imminente. Est-ce que tu acceptes cet entretien ou pas ?
Bien sûr.
Je sens que tu peux perdre des voix, d'accord. Donc, après quelques amabilités, il dit, mais... Dites-moi, Marie-Caroline, il y a de moins en moins de professeurs dans les écoles. Certaines classes n'ont pas de professeurs dans certaines spécialités. Vous, présidente demain, comment vous résolvez la situation ?
Moi, je vois très bien les problèmes, puisque j'ai décidé de mettre l'entièreté de mes enfants dans le privé pour éviter ces problèmes. Donc, évidemment, il y a un enjeu majeur. Il y a un enjeu majeur à essayer de trouver des solutions pour les services publics que les gens fuient, et fuient à raison.
Moi, donc, pour vous, les écoles, c'est des garderies ?
Oui, oui, aujourd'hui, elles sont utilisées comme des garderies où les gens font leurs loisirs et il n'y a rien qui leur est appris. C'est bien pour ça que j'ai mis mes enfants dans le privé, bien sûr. Les professeurs compétents, aujourd'hui, ils sont dans le privé à faire du catéchisme.
Alors,
c'est ça la vérité.
Il y a des gens dans le privé, mais la fameuse enquête PISA dont on a parlé auprès de l'OCDE montre que le niveau de maths en France est catastrophique, y compris dans le privé. C'est quoi votre solution par rapport à ça, vous, présidente ?
Les maths. A-t-on véritablement besoin des maths ? Bon. Peut-être que là, en l'occurrence,
pas
on pourrait
pour un
faire
budget,
venir.
C'est utile.
Je pense qu'elle dit ça parce que les chiffres sont arabes.
Non, peut-être que là, en l'occurrence, on pourrait demander de l'aide à nos amis venus d'autres pays pour faire venir des professeurs. En tout cas, là, je pense que clairement, il n'y a pas assez d'argent qui est mis dans la formation de manière concrète des professeurs.
Alors je vais te prendre deux jetons verts qui représentent les professeurs de France qui sont outrés de ça, les rares qui votaient pour toi. Mais t'en gagnes quand même un rouge, c'est les écoles privées. Oui. Ils sont contentes de ton discours. Et enfin, je me tourne vers toi Karim, un chiffre entre 1 et 50, 60.
7.
7, ça va être... excuse-moi. Violence conjugale. Alors, tu as dans tes rangs un brillant député, un véritable tribun, plutôt jeune. Et cette personne, il a ce jeton avec lui et un de tes jetons, il représente. Voilà. Son nom est Jérôme Louvier, on va l'appeler comme ça. Il est également dans le comité de direction de ton parti. Mais voilà, hier, le canard enchaîné révèle que son épouse a déposé une main courante contre lui pour des faits supposés de violence conjugale, après qu'elle a annoncé sa volonté de divorcer après 13 ans de vie commune et la naissance de leur fille. Jérôme et sa femme ont demandé la plus grande confidentialité, mais Jérôme, voulant défendre son honneur, a un petit peu empiré les choses en expliquant qu'il a peut-être levé la main à une occasion et qu'il le regrette. Et il demande, un peu comme d'ailleurs pour toi, Charlotte, le respect de sa vie privée. Donc, avant que tu te prononces, parce que c'est un peu la panique dans ton parti, est-ce que les autres partis veulent se prononcer, dire une petite phrase intéressante sur le sujet ou pas, sachant que vous ne pouvez que l'enfoncer, vous n'avez rien à gagner.
Oui, oui, mais je veux rappeler que m'inscrivant dans la tradition plutôt centriste et de droite, nous sommes évidemment les meilleurs représentants du féminisme en France. Et nous avons d'ailleurs, je peux en citer, hein, à droite, il y a Simone Veil, hein, désolé, c'était quelqu'un de droite. Qui a autorisé le droit de vote des femmes en France? C'est le général de Gaulle. Donc moi, je trouve ça important de s'inscrire dans cette tradition. Moi, je trouve ça scandaleux. Et c'est vraiment... dès qu'on a un candidat qui est suspecté de quoi que ce soit, on l'écarte.
Mais peut-être qu'il va l'écarter.
On est intransigeant là-dessus.
Peut-être qu'il va l'écarter.
D'ailleurs, je pense que ce serait très important de voter une loi en ce sens.
Oui.
Voilà, je pense que...
Vous, présidente, quelqu'un qui fait des violences conjugales serait écarté de la vie politique.
Tout à fait.
D'accord, très bien.
Aucune
tolérance zéro.
Tolérance zéro, aucune intro. Enfin, il faut pas transiger avec ces choses-là.
D'autres remarques?
Moi, je veux bien faire j'ai un compte TikTok de Tradwife où je montre un peu ma vie, ma routine. Et j'aimerais faire un petit TikTok pour montrer, voilà. C'est à ça que ressemble. Moi, je vous montre ma vie quotidienne, je vous montre à quoi ressemble ma famille, c'est à ça que ressemblent les familles de gauche. Voilà, c'est ça qu'on vous vend. Écoutez, bon, il n'y a pas grand-chose à commenter de plus.
Oh, je mets pas de l'eau sur le feu avant, de l'huile. J'attends de voir la réaction.
Toi, Karim, qu'est-ce qui se passe? Tu peux me dire je fais ça, on fait ça, et tu peux aussi t'exprimer.
Avant de dire ce que je vais faire, c'est quand même encore une fois très drôle de recevoir des procès sur cette gestion de crise. Quand on a notre ami des Patriotes qui nous dit que son ami est Éric Zemmour, dont on a lu des accusations dans la presse, Mediapart, très bon journal, vive la presse libre et indépendante, et vive surtout Libération, évidemment. On a aussi notre cher ami de En Avant. Qui on a eu chez En Avant? Damien Abad, couvert par toute la famille politique, Gérald Darmanin, des accusations. Couvert par la famille politique.
Mais vous êtes en train de dire
un
que...
Un conseiller du président de la République, couvert par la famille politique. Et j'ai envie de vous dire, Fabien et vous, dans son parti également, des accusations couvertes encore et
toujours. Vous êtes en train de dire que c'est pire chez les autres?
Là où nous, parce que je ne vous ai pas encore dit ce que je vais faire, là où nous sommes réunis. Oui. Parce que les crises se règlent d'abord en famille. Nous sommes réunis et nous avons décidé, après un vote... d'un certain cercle de nos députés en interne, mais pas tout le monde. Mais un peu tout le monde. Mais il y a ma compagne aussi qui a décidé que... Mais c'est un peu compliqué, mais alors on l'aime beaucoup. C'est un ami, on le connaît. Ce sont d'ailleurs tous les deux nos amis, ce sont des militants à la base, des camarades. Mais j'ai décidé...
Oui.
Que la révolution écologique et solidaire serait féministe ou ne serait pas. Donc nous avons décidé de son exclusion définitive et immédiate.
Très bien, donc tu me donneras un jeton et tu gagneras celui-là à la place. Je réfléchis parce que le temps nous manque. Oui, ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps, on va compter vos voix. Mm-hmm. J'aimerais bien que vous comptiez, vous me disiez combien vous avez de voix avec vous. Tu peux prendre, tu lui en donnes un. Ah, il en donne un, couleur.
Oui.
Allez-y. C'est bon. Alors. Un premier vote des Français a lieu.
On part 500 000 ou par bille?
Par bille.
Ok.
17.
Moi aussi.
19.
Oh là là, on est foutu. Ça va être.
19.
Les extrêmes.
Alors que je choisis.
C'est les extrêmes, voilà.
Ouais, bien sûr.
Non, mais c'est pas tout à fait terminé parce que effectivement, premier tour, émergent deux partis, celui de Marie-Caroline et celui de Karim. Et
mais ça ne veut pas dire que vous êtes exclu de la course, parce que maintenant, il est possible, si vous le souhaitez, de reporter certaines de vos voix, 3 ou 4 voix que vous pouvez donner au parti que vous souhaitez, en échange, je ne sais pas, d'une place de
une
Premier
place
ministre.
Du gouvernement, bien sûr.
Ouais, une place de... C'est le moment, si vous voulez, de vous appeler, de négocier. Voilà.
Moi, je prends, hein.
Non, mais on discute, t'as rien proposé.
On discute, faut qu'on discute.
Ah oui, bah allez-y, vous pouvez dire je refuse. Moi j'ai connu, parce que j'ai déjà fait ce jeu de rôle, des gens qui perdaient des élections parce qu'ils refusaient une alliance, par exemple. C'est à vous de me dire si vous voulez, c'est le moment ou jamais.
Moi je fais une offre de service, c'est-à-dire que c'est le temps est venu du rassemblement de la gauche. Parce que la vraie gauche de combat, la vraie gauche efficace, c'est avant tout celle qui gagne. Et c'est ensemble qu'on peut gagner.
Cher ami. Et finalement, je vais dire cher camarade.
Ah,
mais ne fais pas de discours.
Voilà, là, on va snupes, là.
Il y a 2 voies qui sont en train de s'ouvrir. Mmh. Les fachos.
Ben, ça, c'est intolérable.
Ou le peuple, avec la révolution écologique et solidaire.
Eh ben, tant pis, on prend ça.
Que je suis prêt à rebrander en révolution écologique, sociale et populaire.
Ouais.
Puisque l'idée est d'accueillir tous ceux qui veulent construire avec nous autour du programme La Révolution en commun, si tu es prêt, on peut s'accorder sur un socle commun, programmatique, parce que c'est avant tout les idées qui nous intéressent.
Bien sûr, c'est la France qui nous intéresse.
Oui, mais il faut un poste, ce sera lui le Premier ministre ?
Alors, non, oula. Il ne m'a pas demandé le poste de Premier ministre, mais par contre, je suis prêt à lui donner un grand pôle de ministère où tu auras l'énergie, le travail,
l'écologie.
Tu devras mettre en application.
Ouais, les trucs sérieux, quoi.
La planification écologique, l'énergie, la santé, tout ce qui sera en lien.
Service public.
Ben oui, tout ça, évidemment.
Les trucs sérieux où il y a des chiffres et tout.
Exactement.
Quoi. C'est plus 8 milliards, 20 milliards.
Moi, je suis prêt à te les donner.
C'est moi qui fais.
En fait, aujourd'hui, tu as 2 voix, encore une fois. Si tu décides de t'abstenir.
Ah non.
Eh ben, tu seras responsable avec l'accession des fachos.
Comment on appelle ce ministère ? C'est le ministère de.
Le ministère du futur.
Ministère. Est-ce que donc tu déclares à tes votants de voter pour ce candidat contre le poste de ministre du ministère du futur ?
Mais bien sûr, et puis avec tout un... C'est évident, c'est une évidence. En face, c'est le fascisme, en face, c'est l'extrême droite.
D'accord.
C'est la fin de la République.
Tu peux lui donner 4 de tes voix. C'est beau.
4 ?
4 de tes voix.
Très bien. T'en as des riches, toi ?
Est-ce qu'il y a une alliance qui se fait, sachant que si toutefois les voix ne vont pas à toi, la partie n'est pas perdue pour autant, parce qu'il y a un dernier débat. Donc qu'est-ce que vous voulez négocier ?
Est-ce que je reste au dernier débat ?
Tu pourras donner ton avis, on va voir. En fait, il y aura des questions du public.
De toute façon, si je fais pas d'alliance,
parce qu'il y aura peut-être, par exemple, une question du public au futur ministre du futur, mais si demain t'es première ministre de l'Intérieur, par exemple...
Est-ce que je peux appeler Charlotte ?
Oui !
Non.
Alors, tu décroches pas.
C'est moi.
Non, il est en train de l'appeler elle.
Mais tu veux, tu décroches pas.
Il est en train de me laisser seule sur le téco.
Oui.
Bon. Est-ce que je peux prononcer mon choix avant l'appel ?
Non, mais
je te mets sur le répondeur, mais je te rappelle. Je te rappelle tout de suite. Ouais, salut. Salut Karim. Ouais, je te rappelle tout de suite. Salut.
Ça marche. Alors, c'est quoi l'alliance là ?
Alors, moi, je pense que par respect pour les Français, et par cohérence aussi avec ce que je porte...
Moment de vérité pour la bourgeoisie.
Il m'est impossible de m'allier à des populistes.
Tu n'es plus une républicaine, que c'est triste.
Je suis prête aujourd'hui à retirer ma candidature.
De toute façon, on a perdu.
Oui, ça passe, ça passe. Afin de lutter et de faire barrage. Et je suis prête à intégrer, le cas échéant, un grand gouvernement de coalition républicaine pour faire barrage à l'extrême droite.
Oh,
d'accord.
Je
sachant
refuse.
Que Karim a prôné la 7e République. Mais
Nous verrons.
Ah bah ça c'est
et je dois vous laisser parce que je dois rappeler un ami.
Mais attends, toi, tu pourrais lui faire une proposition. Si
En tout cas, moi, je suis assez choquée de voir que Karim veut faire des propositions à la majorité. Ça montre bien que la gauche, une fois au pouvoir, sait très bien se compromettre. En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué pendant les débats, c'est que la majorité n'a pas été assez loin, mais a commencé à proposer des projets de loi qui vont dans le sens.
Donc tu voudrais lui proposer un poste ?
Oui, moi, comme vous l'avez vu, je pense, on est un parti jeune, on a un manque d'expertise, notamment sur les questions budgétaires. Peut-être qu'effectivement, il n'y a pas assez de gens qui ont fait des études en maths de notre côté ou en économie. Donc, moi, ce que je lui propose, c'est de redevenir ministre du budget sous ma présidence.
Ministre du budget ?
Oui. Non, ça n'a vraiment, ça n'aurait aucun sens. Encore une fois, ce serait compromettre dangereusement l'avenir de la France. Car on voit bien que ce que font les voisins d'extrême droite. Alors moi, je suis d'accord que sur certains sujets, on arrive à se retrouver.
Comme la préfecture, par exemple.
On arrive à se retrouver, mais je pense qu'on travaillera au cas par cas, le cas échéant. Mais je refuse par conviction, mais aussi par respect, de rejoindre ce prochain gouvernement d'extrême droite.
Très bien. Est-ce que tu as une proposition à faire ?
Je veux juste préciser. Ce gouvernement de coalition, d'accord, à une seule condition, qu'il se fasse autour de la révolution écologique, solidaire et populaire, et sur la base de notre programme. Ah. Aujourd'hui, il y a deux voies qui sont en train de se dessiner. La nôtre, celle de la survie du peuple français, ou alors celle des fachos. Et moi, je le dis,
mais nous,
à
on n'est pas pour la survie du peuple français.
Pas de place, pas de place, pas de place pour les fachos.
Non, attends, stop. Alors, Karim, est-ce que tu as une proposition de poste ou de projet à proposer à...
Les poubelles de l'histoire.
Je peux lui proposer...
Hyper choix.
D'être délégué interministériel.
Non mais on n'en veut pas, on n'en veut pas.
Elle a quatre voix à te proposer. Toi, tu peux les négocier, tu veux dire je veux ça.
Qu'est-ce que tu veux ?
Alors, c'est... jusqu'au bout de tes propositions, je veux bien l'entendre.
Je voulais te proposer d'être délégué interministériel à la jeunesse et à l'égalité des chances. C'est pas mal, ça.
Non.
Qu'est-ce que tu veux ?
Contre-proposition ?
Dis-moi ce que tu veux.
Alors, je veux un ministère.
OK.
Et pas un ministère à la con. Hein. Pas un truc de délégué comme l'autre, là.
Non, il est ministre. Il est même ministre d'État.
Ouais, je suis polyministre, même, carrément.
Non, moi, je veux un ministère. Et je veux un ministère qui ait du sens dans ce que je sais faire. Donc, l'innovation.
Ou l'IA, peut-être.
Oui.
Je peux te proposer...
Et l'autorité, un ministère de l'innovation et de l'autorité.
Oui.
Voilà.
Je peux te proposer...
Idéalement, bien sûr.
Je peux te proposer... mais par contre, malheureusement, ce ne sera pas un ministère de plein exercice. En tout cas, tu seras dans le pôle des vous. Et c'est bien, parce que vous serez le symbole de l'union autour de la révolution écologique et solidaire. Tu seras ministre de l'innovation...
Je ne travaille pas avec des mots du genou.
De l'innovation, de l'intelligence artificielle.
Non. Je veux un poste d'ambassadrice.
Et du renouveau numérique.
Ambassadrice.
Ambassadrice.
Ambassadrice. Alors je peux...
Au pôle.
Il nous reste l'Antarctique.
Non.
Aux USA.
Oui.
Non.
Auprès de l'ONU.
Non, c'est sérieux ça.
Alors attends, est-ce qu'on a encore une ambassade à Bagdad ? Non.
La Chine, peut-être, c'est innovant.
Ah, tiens.
Non.
En vrai.
Non.
En vrai.
Non.
L'Afrique du Sud.
Ah non. Non. Moi, je
fin
veux
des négociations.
Moi, je fin veux l'ambassadrice à l'ONU.
Tout ça s'est fait durant des mois et finalement, vous n'avez pas réussi à tomber d'accord. C'est trop tard. Voilà. Alors, on va quand même terminer. On va avoir trois intervenants, mais tu pourras faire quelques saillies si tu veux, Charlotte. On va prendre des gens du public qui vont... Vous allez poser des questions à trois personnes uniquement. Donc Karim, son futur ministre du futur, ou Marie-Caroline. Et donc, à chaque fois, je vous demanderai pour qui vous votez. Et à chaque fois, vous dites « je voterai pour cette personne », la personne recevra deux voix. Donc vous êtes représentant des Français. Donc je vais laisser quelqu'un de la régie qui a le micro main donner à personne, lever la main pour ceux qui veulent parler aux gens. Poser des questions. Est-ce que quelqu'un veut poser des questions ? Il y a une question là. Vas-y, je te laisse. Vas-y. Question pour qui ? Pour Karim.
En fait, pour les quatre.
Ce sera pour Karim. Alors, dites-moi.
Ah bon ? Qu'est-ce que vous pensez de l'Union européenne et de l'Europe ? Vous n'en avez vraiment pas parlé. Hein.
on ne peut pas tout parler, malheureusement, mais oui, allez-y.
Mais, et c'est à ce moment-là que je peux donner, parce que c'était un de ces grands
engagements. Gardez le micro, madame, gardez le micro.
Je peux donner la parole à mon grand ministre du futur, parce qu'il a pris des engagements
allez,
pour l'Europe.
Le ministre du futur va répondre.
Et oui, et je pense que je suis un des seuls candidats dans cette campagne qui ait un peu parlé d'Europe, et il y a Europe dans le nom de mon parti, quand même. Donc c'est pas de la merde.
D'accord, mais alors la réponse concrète.
Non, l'Europe c'est évidemment le cadre dans lequel il va falloir pousser, il va falloir pousser nos partenaires européens pour une harmonisation écologique, sociale, pour des services publics aussi pensés à l'échelle européenne et notamment la gestion. Et en tant qu'écologiste, je vous le dis, la gestion des ressources. On peut gérer l'eau, vous pensez, sur un seul petit territoire comme la France. Il va falloir penser en termes de bassin. Il va falloir penser autrement. Et l'Europe, ça sert aussi à ça.
Alors, à force d'avoir des bassins, madame, vous allez vous noyer.
Madame,
moi je suis très bassin, moi.
Est-ce que vous êtes convaincue par cette réponse ou est-ce que vous voteriez pour l'autre camp?
Je pense que c'est encore de la langue de bois, mais à part ça.
Donc vous voteriez plutôt pour Karim ou pour Marie-Caroline?
Oh, quand même, petite tendresse pour Fabien.
Ah. Allez, c'est parti.
Mais on peut pas voter pour Fabien.
Je suis pour lui, moi.
Dans ces cas-là, on peut voter pour moi si on peut voter pour Fabien.
En fait, si...
c'est la coalition. Hein.
Alors, autre question. Marc, il y a deux voix pour Karim. Autre question, si vous en avez. Je laisse la régie choisir pour moi parce que je peux pas me retourner facilement. Qu'est-ce qui se passe? Ah, là-bas. Allez, allons-y.
Merci.
Quelle sera une question pour Marie-Caroline?
On a vu l'augmentation des manifestations, notamment pendant la retraite. Quels sont vos avis sur les violences? Est-ce que vous condamnez les violences, finalement?
Marie-Caroline.
Bravo, camarade.
Gardez le micro.
Les Français sont en colère, leur colère est légitime, mais je pense que mes chers compatriotes devraient exprimer leur colère à travers leur bulletin de vote pour la famille des patriotes. Là, je pense clairement que les manifestations, aller dans la rue, ça va bien, mais ça bloque, ça prend en otage aussi les Français, et je pense qu'une partie du pays est un peu lasse et fatiguée de ces manifestations.
Sur la question des violences.
Sur la question des violences, on parle bien des violences des manifestations envers des manifestants envers les policiers.
Des violences générales sur,
bien sûr.
Lors de ces...
Bah moi, je vous parle de ça, je trouve ça scandaleux. Ce sont des gens qui représentent l'ordre, et donc nous devons le respecter.
Est-ce que cette réponse vous convainc de voter pour Marie-Caroline?
Pas trop, j'avoue.
Donc
pas
plutôt trop. Pour Karim, votre
oui,
voix
plutôt.
Allez, ce sera deux voix pour vous, Karim.
C'est parti. En revanche, moi, ça me donne envie de rejoindre...
Pardon, vous dites?
Ça me donne presque envie de la soutenir désormais. Ah.
Parce qu'il faut sachez que la vraie violence, ce n'est pas celle que vous décrivez, c'est la violence qu'ont subi les manifestants par les policiers, c'est la violence que nous ont mis ce mouvement présidentiel en nous mettant 2 années de plus au travail.
Et les petits commerçants qui voient leur vitrine cassée.
Bah, j'ai le maire de Paris avec moi, justement, qui les accompagne au quotidien.
Ouais, moi, je vais les voir et tout, je les dorlote.
Une autre question pour Karim.
Oui, Karim, tout à l'heure, à Stellantis, vous parliez d'aller jusqu'à choper la veste des patrons de Stellantis, mais... La violence, vous aviez peur aussi des fascistes qui, eux, utilisent aussi la violence. Est-ce qu'en reprenant leur méthode violente, vous ne feriez pas comme les fascistes et ne seriez-vous pas les vrais fascistes?
Alors, Karim, on vous répond.
J'ai un petit peu répondu avant même qu'il pose sa question, même qu'il la pose, cette question. J'ai déjà un peu répondu. Je suis en train de bégayer, mais tout va bien se passer.
Il est un peu gêné quand même, hein. Allons-y.
Finalement, vous n'aviez pas séquestré déjà, donc...
Alors non, parce que finalement, ils ont fini par plier, donc on ne les a pas séquestrés. Moi, je suis un réformiste révolutionnaire. Je passe d'abord par le dialogue.
La révolution par les urnes.
C'est pour ça que je me présente à cette élection, d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a construit maintenant la révolution écologique, solidaire et populaire, parce que nous sommes en réalité des non-violents. Nous ne faisons qu'essayer de répondre à la violence des puissants avec nos pauvres moyens.
La réponse de Karim, c'est qu'il prône la non-violence désormais. Est-ce que ça vous convainc de voter pour lui ou plutôt pour Marie-Caroline?
J'étais convaincu, maintenant je suis persuadé.
Très bien. Deux points supplémentaires.
Ce que je constate, c'est que personne ne parle de violence fiscale. Hein. Ça, c'est complètement...
Mais peut-être la prochaine question, peut-être sur ce sujet-là, est-ce que...
Et Vlaka va bientôt nous parler de phobie administrative, celle-là.
Je veux bien une question de... Il y a plein de questions, allons-y, continuons.
Excellent concept.
Bonsoir.
Oui.
Alors, ma fille est autiste...
C'est pour Marie-Caroline, la question.
D'accord.
Vas-y.
Ma fille est autiste sévère, j'habite dans une circonscription où mon député est Rassemblement National. Je vais la voir pour lui expliquer ma situation. Elle fait un courrier à l'Agence régionale de santé qui reste 6 mois sans réponse. Or, ma députée me dit « J'ai absolument tout fait pour défendre votre enfant. ce qui est assez fou. Comment faire ?
Et que faire pour ce cas particulier ? Parce que le président résout aussi ce type de cas. Mmh, allons-y.
Bien sûr. Moi, je pense que clairement, je l'ai mentionné tout à l'heure aussi en parlant des enfants en situation de handicap qui ne sont pas acceptés dans l'école républicaine. Je pense que clairement, il y a un gros défaut. Il n'y a pas d'argent qui est mis de ce côté-là du point de vue de l'État. Je vous rappelle que c'est la majorité qui ne met pas d'argent de ce côté-là. Donc la prise en charge des problèmes, elle doit se faire effectivement au cas par cas et sur le terrain. Donc j'espère que je vais moi-même m'occuper de voir avec votre député pour voir que ça soit bien. Ça soit bien pris en charge, évidemment.
Marie-Caroline, future présidente, dit qu'elle va prendre le dossier en main personnellement. Est-ce que ça vous convainc de voter pour elle ou voter plutôt pour Karim ?
J'attends de voir sa réponse.
Mais elle vient de répondre, elle dit je vais m'en occuper moi-même. Ah, tu
j'attends
pas...
des preuves.
Ah, j'ai besoin que tu prennes une décision pour le jeu. C'est un jeu. Est-ce que tu voterais pour elle ou plutôt pour Karim ?
J'ai plutôt tendance à vouloir qu'une femme soit présidente, donc on va plutôt donner la parole.
Allez, deux points supplémentaires. Merci. On continue, on a encore deux questions.
Elle a juste dit qu'elle allait prendre le dossier en main, on ne sait pas ce qu'elle va en faire.
Je veux bien avoir des questions de femmes, si c'est possible. La régie peut sélectionner une spectatrice, ce serait parfait. Question pour Karim.
Oui, Karim, vous mettez des millions sur la table et vous voulez aller les chercher chez les ultra-riches.
Des milliards, pardon.
Vous voulez aller chercher chez les ultra-riches. Donc ma question, c'est si tous les ultra-riches quittent le pays, comment vous allez faire ?
Merci.
Oui, j'avais voté pour
vous. Rémigration fiscale, rémigration fiscale.
C'est original comme question.
Mais c'est vrai.
On s'y attendait, hein, évidemment. Je vous l'ai dit, je suis un réformiste révolutionnaire. Donc ma première étape, c'est la taxation des riches. Mais s'ils souhaitent s'enfuir...
On ira les chercher jusqu'en enfer.
On ira les chercher jusqu'en enfer. On ira exproprier tous les riches et leur prendre tout jusqu'au dernier centime.
Ouais, la non-violence...
Encore une fois, où se place la violence ? Ouais. La violence des puissants qui s'évadent et qui ont
et
les
du
moyens
coup,
de
se tu mets des moyens et dans la police pour faire ça, pour aller les chercher ?
Mais oui, dans la police fiscale, pour aller justement les chercher. Enfin, un peu de justice.
Très bien.
Et surtout, et parce que j'ai oublié de le mentionner, parce que j'ai entendu que apparemment on votait pour Marie-Caroline parce que c'était une femme. Si j'ai décidé de ne pas accorder le Matignon à mon ami Fabien,
c'est
parce que
femme.
J'ai décidé de mettre une première ministre et parce que je prône l'horizontalité.
Parlons, Karim.
Ce n'est pas un président de la République qui gouvernera, mais ce sera une équipe dans l'horizontalité avec un duo qui sera mené par moi-même et ma première ministre.
Tu te souviens de son nom ou pas,
moins.
Cette femme?
Et un peu moins quand même aussi.
Charlotte.
Comme c'est la dernière question, je voudrais savoir si tu voterais plutôt pour Karim ou pour Marie-Caroline.
Comme je suis riche, je pars en Suisse parce que c'est très joli les Alpes pour cette saison.
Ah, on ne peut pas botter en touche. Il faut choisir Karim ou Marie-Caroline.
Marie-Caroline.
Allez, oui. Marie-Caroline gagne 3 voix. Et j'aimerais quand même que vous comptiez, même si je pense que Karim a une petite avance. Et ce sera la fin de ce jeu. Je sais qu'on est pris par le temps. Je rassure, Libération, c'est terminé dans 5 minutes. Donc juste compte bien Karim, compte bien Marie-Caroline. Vous aurez droit aussi à un petit discours de 2 minutes et on terminera l'émission. Voilà.
On va la faire cette République.
29.
24.
24. Mmh. Oh, c'est
bravo. Sûr.
Ça, cette nuit, il n'y a pas grand-chose.
Toujours disponible pour Matignon.
On a un nouveau président de la République, Karim Benamra, c'est ça, si je me souviens bien ?
Benamra.
Est-ce que tu peux faire en 1 minute, pas plus, un discours en tant que président. Tu viens d'accéder à la présidence.
Française, Français, camarades, on l'a fait ! On l'a fait ! On a mis fin à toutes ces années de parlotte, de petites politiques qui ne servent à rien et de puissants qui se protègent et qui se gavent entre eux. La révolution sociale, on l'a dit. La révolution écologique, on l'a dit. La révolution démocratique, parce qu'on n'en a pas parlé. On va installer le référendum d'initiative citoyenne. On va installer la révocation des élus. On va installer tout ça. La parole est enfin au peuple. Et je suis ravi de vous présenter mon ministre du futur, Fabien Hibou, à mes côtés. Les amis, je vais juste clôturer avec ce qui était mon slogan depuis le début, et nous allons le faire. La révolution en commun, 2 points, taxer les riches.
Merci infiniment. Je demande aux personnes qui ont posé des questions de rester, de s'approcher du public, de s'approcher de la scène juste à, dès que ce sera terminé. On a un petit cadeau pour eux. Ce sont tout simplement, je vous montre.
Des portraits, il a dit.
Oh, waouh!
Des portraits de vous, voilà.
Oui.
On pourra regarder, voilà, extraordinaire. Il y en a un de chaque. C'était le jeu de rôle Backseat sur les présidentielles. Merci d'avoir été avec nous. C'était extraordinaire. Ça va, Maudit? C'était une belle première expérience?
C'était très bien.
Voilà.
Je me suis bien amusée.
Merci. C'était bien, Léa?
Écoute, c'était bien, mais finalement, je vois que même dans un jeu de rôle, le chat est de gauche.
Ouais. Il a voté une fois pour Marie-Caroline. Et merci, Usul. Merci, Malek. Merci, Libé. Merci, la Sorbonne. Merci, tout le monde. Merci, Gozu.
Merci à
bientôt.
Toi.
Et merci, toi. Et merci beaucoup, Fibre Tigre, pour cette animation exceptionnelle. Merci beaucoup, Fibre. Chers amis, un tout petit mot, la soirée continue. La soirée continue, ça vaut pour vous qui êtes derrière votre PC à l'heure qu'il est, ça vaut pour vous qui êtes ici dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. On continue la soirée à 20h, on va faire une petite pause, le temps de réorganiser un peu le plateau. À 20h, on aura une émission exceptionnelle du jamais vu sur Twitch. Les têtes de liste aux élections européennes qui auront lieu dans seulement un mois seront sur ce plateau et répondront à nos questions. Cette émission sera co-animée par Jonathan Boucher-Petersen de Libé et moi-même. Et on sera avec des journalistes de Libé qui vont poser, on a préparé cette émission depuis des semaines, plein de questions à nos têtes de liste. Donc soyez là à partir de 20h, à tout à l'heure.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.